Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio-Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis. Bonjour Denis Cipher.
Bonjour.
Votre regard présidentiel américaine, un enjeu planétaire avant cette présidentielle, le 5 novembre prochain aux États-Unis. Vous déplorez une campagne d'une violence sans précédent.
Incontestablement, c'est une campagne d'une violence comme on n'a pas connu ça. Moi, je me souviens, c'est un très vieux souvenir de la campagne Barry Goldwater contre Johnson, je crois, et où il voulait mettre une bombe atomique sur le Vietnam. Goldwater était vraiment un fasciste, mais ça ne prenait pas pareillement dans la population. Là, il y a vraiment des deux Amériques qui se font face, et l'Amérique de Trump fait peur. Elle a peur et elle fait peur.
En quoi est-elle différente de la campagne qui opposait Donald Trump à Joe Biden quand Donald Trump était le président sortant?
Alors, la différence avec 2016 et avec 2020, c'est que entre-temps, Trump, disons, a avancé ses pions dans la société américaine et en particulier aussi au niveau des institutions. Et il a maintenant, une Amérique qui est, si j'ose dire, organisée autour de lui, avec des institutions qu'il a mis à sa botte, en particulier la Cour suprême, et des gouverneurs. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dangereux, c'est plus un homme seul qui fait du tintamarre, c'est vraiment un personnage politique classé vraiment à l'extrême droite et qui déjà fait savoir que si les États ne sont pas favorables, il rejettera le résultat. Et donc là, il a beaucoup avancé, disons, en influence. Alors, il y a évidemment aussi le bilan très mitigé de Biden, hein, qui faut pas négliger. Mais enfin, je pense que malheureusement, le problème, c'est que, comme je l'écris dans l'édito de cette semaine, c'est le moindre mal contre le pire. Hein. Le moindre mal étant Kamala Harris, à laquelle je n'adhère pas du tout pour bien des égards, hein, notamment sur le Proche-Orient. Mais enfin bon, on ne sait pas ce qui adviendrait si Trump l'emportait, où il libérerait complètement, disons, le sioniste extrême droite de Netanyahou pour le pire, c'est, y compris d'ailleurs en Cisjordanie bien sûr, mais aussi peut-être face à l'Iran, etc. Donc on n'a pas le choix, c'est que c'est le choix du moindre mal.
Sur le plan international, vous écrivez que la victoire de Donald Trump provoquerait une onde de choc sur la planète entière.
Oui, parce que c'est un grand paradoxe. On voit les BRICS, on a vu qu'ils se sont réunis là récemment. Tous ne sont pas des dictatures, mais il y a quand même beaucoup d'autocrates et de dictateurs là-dedans, en commençant par Poutine. Et puis, des illibéraux, comme on dit, pour reprendre la formule du Hongrois Viktor Orban. Ce qui est très curieux, c'est que ces gens s'organisent pour se soustraire à l'influence américaine. Or, il se trouve qu'avec l'élection américaine, ils risquent d'avoir un allié à la Maison-Blanche, avec Trump, qui leur ressemble comme deux gouttes d'eau, parfois deux gouttes de sang. Donc, c'est tout à fait ironique et paradoxal et extrêmement inquiétant. Et on ne sait pas ce qui adviendrait si, en effet, arrivé à la Maison-Blanche, un ami de Poutine, un grand ami de Netanyahou et un ami de Bolsonaro, bien que celui-ci soit plus au pouvoir au Brésil, mais aspire à y revenir. Enfin bon, tout ça c'est définit un tableau qui est planétaire, très inquiétant, et c'est effectivement ce que j'appelle entre guillemets le privilège des États-Unis, c'est que c'est une élection américaine certes, où nous autres Européens n'avons pas voix au chapitre, et c'est bien normal. Mais c'est une élection qui va avoir des effets planétaires, y compris sur l'Europe, que Trump déteste, et on ne sait pas ce qu'il commettrait aussi à son encontre.
Vous évoquez le sort des femmes, et vous écrivez que Kamala Harris, la candidate démocrate, est l'ultime rempart face à Donald Trump, qui, selon votre propos, incarne le pire pour les femmes, pour les immigrés, et, écrivez-vous, pour les populations racisées.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, encore une fois, Kamala Harris, c'est pas le mieux que l'on puisse espérer, encore que pour les femmes, bon, elle est très claire, sur des questions de mœurs, elle est tout de même très progressiste, surtout par rapport à Trump, mais sur l'immigration, elle a beaucoup d'ambiguïté aussi. Mais Trump, il a un langage sur les immigrés qui est épouvantable. Il avec la promesse de rejeter jusqu'à 20 ou 30 000 immigrés hors des frontières, avec, si possible, disons, le recours à l'armée pour réprimer non pas seulement les immigrés qui n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre, mais toutes les associations, tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Donc on a quand même là un climat de guerre civile. Alors effectivement, la question des femmes qui sont démographiquement majoritaires, de peu mais majoritaires aux États-Unis, mais qui vont pas toutes voter pour Kamala Harris pour autant, loin s'en faut. C'est évidemment le grand argument de campagne de Kamala Harris, dont on peut espérer que ça évitera le pire, c'est-à-dire Trump.
Et vous terminez sur une note pessimiste, hein. Quoi qu'il advienne le 5 novembre, la violence et la haine de la démocratie continueront, écrivez-vous, à faire des ravages.
Oui, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a toujours cette image du dentifrice qu'on a du mal à faire rentrer dans le tube quand on l'a fait sortir. C'est-à-dire que c'est exactement ça, là. C'est-à-dire que le climat de haine qui s'est propagé avec la campagne de Trump, elle va pas s'arrêter au lendemain. Ça va commencer par la contestation des résultats, parce que c'est déjà annoncé comme tel, si jamais il était battu, hein, ce qui est pas du tout sûr. Et de toute façon, donc des affrontements verbaux dans le meilleur des cas, et voire physiques, parce que je pense que l'autre Amérique, celle, disons, que j'appellerais plutôt de la raison, et ne se laisserait pas faire non plus, quoi. Mais ce que je voulais dire aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a un débat à gauche. Il y a eu beaucoup d'illusions sur Trump en 2016 à gauche, dans une certaine gauche, où on voyait là en effet une défaite du libéralisme, ce qui était vrai. Mais on ne peut pas non plus espérer le pire uniquement pour au nom du combat contre le libéralisme. Mais il y a aussi aux États-Unis ce débat semaine autour de candidats qui sont des candidats qui incarne ce qu'on appelle le vote de conviction, c'est-à-dire on pense à l'écologiste Jill Stein, qui a des positions très intéressantes sur le Moyen-Orient, bien entendu, sur le Proche-Orient, sur la défense des Palestiniens, beaucoup mieux que Kamala Harris. Le problème, c'est que les quelques milliers qu'elle risque de détourner de Kamala Harris dans des États qui sont les fameux swing states, les États pivots, comme le Wisconsin, par exemple, et le Michigan, où elle est un petit peu influente, Jill Stein, eh bien, ces votes-là risquent de faire passer Trump. Et c'est le grand paradoxe, disons, des votes dits de conviction qui font plaisir, qui ont un côté un peu narcissique, pour le dire méchamment, mais qui, en fait, risquent de faire le jeu du pire. Et donc, je voulais le dire de façon un peu paradoxale, même si je me sens plus proche de Jill Stein que de Kamala Harris.
Merci, Denis Cifer.
Merci à vous.
Votre regard dans Politis, présidentielle américaine, un enjeu planétaire.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio-Orient.